Attention, les propos tenus dans ce podcast peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.
Quatrième arrêt, témoin, le comportement à adopter face à une situation de violence.
C'est grave, c'est condamnable.
Je voulais pas sortir de la rame, c'était pas à moi de partir.
Qu'ils comprennent la répercussion sur les victimes.
Et en fait, à un moment, j'ai senti, et là, pareil, le doute. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou pas?
Il ne faut jamais avoir honte d'avoir été victime.
Tant que je n'ai pas dit oui, c'est non.
Oh là là, j'ai encore fait beaucoup trop de photos à la soirée de Laura. Bon, j'ai encore une dizaine de stations, je vais en profiter pour les trier. Tiens, je suis pas la seule à être le nez sur mon téléphone. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je rêve ou quoi?
Monsieur, vous êtes en train de la prendre en photo, là?
Et voilà, pris en flagrant délit de upskirting. En français, c'est le délit de captation d'images impudiques. En gros, c'est quand quelqu'un glisse discrètement son téléphone ou une petite caméra sous la jupe d'une femme pour prendre une photo ou une vidéo de son entrejambe. Parfois, la victime ne s'en aperçoit même pas. Elsa a été victime d'upskirting dans le métro. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'allais travailler comme tous les matins, il n'y avait rien d'anormal au moment où je suis entrée dans la rame. Ne serait-ce qu'on était tous un petit peu serrés, et puis après quelques stations, à une station, j'ai senti la main de quelqu'un. En fait, c'était le téléphone ou la main de quelqu'un qui était en train de filmer en dessous de ma robe. C'est une zone qui, normalement, n'est atteinte par rien du tout. Peut-être par une mallette ou quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, quand je me suis retournée, il y avait un monsieur qui avait son téléphone avec le mode vidéo, comme quand on veut faire un selfie et qu'on voit la vidéo, en fait. Donc, je voyais qu'il était en train de filmer quelque chose. J'ai tout de suite crié dessus en disant que ça n'allait pas de filmer comme ça, qu'on ne filme pas sous les jupes. Enfin, je tremblais énormément, mais j'avais mon portable peut-être presque dans ma main d'ailleurs, pas très loin. Donc je l'ai pris en photo, j'ai dit bon bah comme vous m'avez pris en photo, moi aussi je vous prends en photo, un peu pour lui faire peur. Après j'ai continué un peu à crier parce que déjà j'aurais bien aimé qu'il quitte le métro, ce qu'il n'a pas fait. Et que, enfin je sais pas, enfin j'avais envie de l'engueuler quoi. Il bredouillait quelque chose comme non j'ai rien fait. Il est resté. Moi, je voyais qu'il me répondait pas trop. Je m'attendais pas à une altercation non plus. C'était pas, de toute façon, comme on se prépare pas à ça, on sait pas vraiment, on n'est jamais préparé en fait à ce genre de situation. Et donc, je changeais de carré. Je suis allée dans l'autre endroit pour m'éloigner de lui. Et puis, je tremblais vraiment. Enfin, physiquement, ça, je pense que ça se voyait. Puis, j'ai pleuré un peu. Les gens ont regardé. Il y a des femmes qui ont dit c'est pas bien monsieur, faut pas faire ça. Elles, en sortant de la rame, je pense qu'elles avaient peut-être rien dit. Ça a bien duré quand même une station, notre échange avec le monsieur. Parce que c'est pas très long, mais une minute trente, c'est quand même long. Et aucun homme n'a rien dit, ni bougé. Après, vraiment, ça va très vite. Moi-même, je sais pas si j'aurais compris qu'il se passait quelque chose. Il faut voir parce que quand même un petit peu de monde. Il n'était pas non plus très tôt, c'est pas la grosseur de pointe, mais il y avait quand même du monde.
Si vous avez déjà été témoin d'upskirting et que vous avez réagi, c'est super. Mais si vous ne l'avez pas fait, ne vous en voulez pas, ça arrive. Et puis, quelles que soient les circonstances, les témoins ne sont pas responsables de l'agression. L'auteur des faits est le seul coupable. N'empêche que moi, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire la prochaine fois que ça m'arrive. Lou Fougère travaille au sein de l'association Résonante. Et elle est formatrice stand-up, un programme qui permet d'apprendre à réagir quand on est témoin ou victime de harcèlement sexuel dans l'espace public. Je lui ai demandé de nous partager une méthode hyper accessible et vraiment utile, les 5D.
Dans la méthode des 5D, il y a distraire, déléguer, documenter, dialoguer et diriger. On a distraire, qui est en fait créer une distraction pour détourner l'attention de la personne qui harcèle. Donc ça peut être demander son chemin, faire tomber quelque chose ou alors faire semblant de connaître la personne qui est victime. on a délégué. Donc déléguer, c'est demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui est à côté de vous ou alors une figure d'autorité. Dans les transports, ça peut être par exemple des agents de la SNCF ou de la RATP. Documenter, c'est simplement prendre une vidéo ou des photos de la situation. Ça sert à créer des preuves en fait pour la victime. Dialoguer, c'est une fois que la situation de harcèlement est terminée, pouvoir aller parler à la personne qui est victime pour lui demander si ça va, si elle a besoin de quelque chose, et surtout pour lui dire aussi qu'on a vu ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, c'est pas normal. Et enfin, la dernière méthode, c'est diriger. Donc, c'est la méthode à laquelle on pense le plus souvent, en fait. C'est de dénoncer le harcèlement directement auprès de la personne qui harcèle et de lui dire d'arrêter.
Pourquoi est-ce que c'est important en tant que témoin d'agir et de mettre en place l'une de ces techniques ?
C'est important parce que ça va permettre à la victime de pouvoir se remettre d'une situation, de se dire, en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a des gens qui ont vu la situation. Ce n'est pas de ma faute, en fait.
Là, moi, si je suis dans une rame de métro, par exemple, et que je vois que quelqu'un essaye de faire une photo ou une vidéo de l'entrejambe d'une jeune fille, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus efficace possible ?
Pour être le plus efficace possible, je pense qu'on peut aussi créer une distraction, c'est-à-dire s'interposer entre les deux personnes, faire semblant, par exemple, de faire tomber quelque chose et séparer, en fait, la personne qui harcèle de la personne harcelée. Dans un même temps ou avant, on peut également demander de l'aide à quelqu'un. Par exemple, s'il y a un agent des transports, aller le voir et lui dire « Écoutez, j'ai vu cette situation-là, est-ce que vous pouvez m'aider ?» En fait, toutes les méthodes des 5D peuvent s'appliquer dans cette situation-là. Tout dépend de la personne, de comment vous vous sentez aussi. Le but, c'est jamais de se mettre en insécurité. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à déléguer. Être plusieurs à intervenir, ça peut être rassurant. Je pense que l'urgence de la situation, c'est vraiment de stopper la situation et aussi de pouvoir demander de l'aide, je pense, dans ce cas-là, à une figure d'autorité, même jusqu'à la police, si besoin.
Au-delà des 5D, il existe d'autres méthodes pour se former. Ce qui est sûr, c'est que les voyeurs ne sont pas simplement des mecs mal élevés. Juridiquement, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violence et cette pratique peut être punie de minimum 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Je dis « minimum » car si les faits sont commis sur un ou une mineure, ce qui est assez fréquent, c'est 2 ans et 30 000 euros. Maintenant qu'on sait ça, on se dit qu'il sera important de faire quelque chose la prochaine fois, n'est-ce pas ? Enfin, le mieux, ce serait encore qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Le trajet continue. On se retrouve pour l'épisode 5, consacré aux outils qui existent pour accompagner les victimes.